bonsoir et merci à vous de braver les intempéries et la montée de la Moselle qui devrait nous emporter avant dimanche. Je plaisante, bien évidemment. Tout est sous contrôle, rassurez-vous. En tout cas, si le soleil n'a brillé que quelques instants tout à l'heure, il est, j'espère, dans nos cœurs de lecteurs et de lectrices. Et c'est ce que vous nous proposez, en tout cas, les auteurs ici présents. Tout d'abord, Christophe Lode, l'un de nos quatre invités allemands de cette année. Vous savez qu'à partir de cette année, les Imaginales, au-delà de nos amis américains qui sont là, qui étaient là et qui seront là, bien évidemment, dans les années à venir, nous aurons un pays européen, peut-être plus tard un pays plus lointain, un pays invité qui nous permettra de découvrir plusieurs auteurs d'une nationalité autre que la fantasy américaine qui s'impose de toute façon automatiquement chaque année. Donc Christophe Lode a publié un premier roman en France, Basera, le sceptre de Salomon. Un premier roman qui est un roman historique, qui démarre comme un roman historique, mais on verra que ce n'est pas qu'un roman historique. Et évidemment, l'ombre de la fantaisie n'arrive pas tout de suite dans le livre, on ne devine pas tout de suite, mais vous verrez qu'évidemment, en le lisant, vous comprendrez de quoi il s'agit. Ensuite, Marika Gallman, une des stars francophones, il n'y en a pas tant que ça encore, de ce qu'on appelle chez nous de la bitlite, de la fantaisie urbaine, de ces histoires de vampires et de loups-garous qui nous réjouissent. On verra aussi un petit peu un ton assez différent du ton de Christophe Lode plus classique. Et puis... Arthur Tenor, qui est un des auteurs les plus appréciés, les plus réputés de la littérature dite de jeunesse, en tout cas pour la jeunesse. Mais là aussi, on verra un petit peu comment il voit les mondes imaginaires et comment la fantaisie pour lui est pratiquée. Et puis, je n'ai pas oublié, mais j'ai légèrement laissé passer Magali Villeneuve, parce que Magali Villeneuve, c'est là qu'on commence à le découvrir. Non seulement elle dessine, et peut-être pas toute seule, mais fort bien, puisque avec Alexandre Dinch, ils sont les auteurs de l'affiche du festival. Elle écrit aussi et elle commence à publier de la fantaisie. Donc c'est une occasion de découvrir une autre facette de son travail. Voilà, présentation rapide de nos auteurs. Donc entrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet, alors Frédéric Volo est absente, donc je vous prie de bien vouloir l'excuser. On va donc commencer... par une littérature énergique, on va la qualifier ainsi, avec un court extrait à la page 132 du premier volume de Marika Gallman, Maeve Regan, c'est le nom de la série, et puis le premier, La rage de dents. Tout se passa très vite. Dès que l'Indien eut fait un pas dans le salon, je tombai au sol, le vampire blond ayant reçu un coup sur la tête, un coup de tête. Le géant en avait lancé une droit sur lui et n'avait pas manqué la cible. Un bruit de bris de verre retentit dans toute la pièce. Le temps que je regarde, Geronimo avait envoyé l'autre tête sur Lucas, qui était maintenant en train de se battre avec le brin qu'il tenait à sa merci jusqu'alors. Roy avait disparu. Je me mis à rudoyer les vestiges de mes liens sans demander mon reste. À peine m'étais-je débarrassé de cette fichue ceinture que je me retournais pour voir que le blond s'était relevé et avancé vers moi, tout comme le colosse indien. Je n'eus qu'une fraction de seconde pour réfléchir. Je roulais vivement sur mon côté droit, en direction de ma sac à main, alors que j'entendais le blond se jeter là où je me trouvais quelques secondes plus tôt. Avant que moi-même je n'ai eu le temps de comprendre quoi que ce soit, je me retournais victorieuse en brandissant le spray au poivre devant moi. J'entendis, plus que ne vis, hurler l'Indien. Il avait à moitié écrasé le blondinet en s'asseyant sur lui, et l'aérosol l'avait atteint droit dans les yeux. Et il n'avait vraiment, vraiment pas l'air content. Oups ! Le blond sourit méchamment. C'est la dernière chose que je vis clairement. Mes yeux subissant, eux aussi, les vapeurs de la bombe. Pas pratique dans une pièce close. Je me mis à reculer en toussant, fesses au sol, mes mains me servant de radar. L'une d'entre elles entra en contact avec ce qu'elle identifia immédiatement comme étant une tête tranchée. C'est gay, Marika Gallman. Avec un ton guilleré, alerte, on se bagarre, on trouve des têtes tranchées. Est-ce que c'est peut-être la spécificité de la bitlite et votre ton de... raconter des scènes de bagarre, des scènes affreuses, des scènes de violence, avec toujours ce ton prime sautier.
Je ne sais pas, en fait, si c'est... Je pense que l'urban fantasy, la bitlite, c'est quelque chose d'assez énergique, d'assez qu'on vit. C'est une littérature dans laquelle on aime rentrer, on aime être emporté. Et ce n'est pas forcément quelque chose j'ai envie de dire contemplatif, on ne va pas se perdre dans une scène pour décrire absolument tout ce qui se passe en détail. C'est plus du... En tout cas, pour moi, quand j'écris, c'est plus du vécu, du ressenti, les éléments importants. Et c'est quelque chose de... Enfin, ça a du peps, quoi. C'est, j'aime pas m'ennuyer quand j'écris. Et du coup, j'essaye de décrire pour donner quelque chose de plus vivant et qui m'ennuierait pas, en fait, en le lisant.
Bien. Autre extrait, autre ton, on passe de l'urban fantasy, de la bitlit, à la fantasy d'action, on va dire la fantasy épique. La tribune de Ligil s'élevait à peine 6 pieds au-dessus du sol de l'arène. Outre son orientation centrale, elle se différenciait surtout par le fait qu'elle offrait l'assise de véritables sièges, là où le reste des gradins était constitué de larges marches que certains agrémentaient de couvertures ou de coussins pour les plus prévoyants ou les plus sensibles. À l'unisson avec leurs hauts gardes, les hommes portèrent l'index et le majeur joints vers leur front. Par tradition, Ligil Nolat devait naître à Tile Agrevina, aussi convenait-il de lui offrir le salut de la région. Ligil, paré de son vêtement d'un bleu lumineux cousu de fil argenté, ses cheveux blonds éclaircis par l'éclatante lumière de ce milieu de matinée, les gratifia du même geste, quoique un peu plus vague. Il se tenait enfoncé dans son siège avec une certaine nonchalance. En revanche, le regard azuréen par lequel il scrutait la manœuvre des hommes devant lui recelait assez d'intensité pour perforer un bloc de marbre. 3 signes concis suffirent à Melgar pour que la colonne se scinda en une quinzaine de lignes successives des 10 arpenteurs chacune, déployées côte à côte. Ils s'écartèrent les uns des autres par la distance d'un bras tendu posé sur l'épaule de leur voisin de gauche. À ce moment, le haut garde s'écarta et fut remplacé par un homme resté jusque-là en arrière, au pied de la tribune. Son uniforme désignait le haut capitaine, grade le plus élevé de la garde tout entière, et dévolu à un seul homme. Un seul pour tous les territoires et toutes les divisions. Sur ses épaules et le long de ses manches, le liseré doré semblable à celui des hauts gardes se bordait de part et d'autre de la ligne argentée des arpenteurs. Ses décorations couraient également sur les flancs de son pantalon noir et le contrefort de ses bottes étincelait d'une plaque d'or pure. Dans son dos, la poignée de sa longue épée dépassée, laissant entrevoir un pommeau finement gravé. Voilà, le décor est planté, un monde de fantaisie. Pourquoi ce goût pour les uniformes, Magali Villeneuve?
Je ne sais pas particulièrement, c'était juste que bon, il y a une caste militaire, donc par le fait, il y a des uniformes. Et je crois qu'en fait, ce qu'on retrouve pas mal dans mon texte et ce que votre extrait illustre, c'est que, étant illustratrice, j'ai vraiment un goût pour les choses visuelles. Par le fait, j'installe beaucoup mon univers et mes personnages avec des éléments très visuels, des couleurs, des formes, de même pour les décors, où j'essaye vraiment de planter voilà, un décor global qui soit suffisamment immersif et suffisamment fort visuellement, qui puisse frapper l'imagination du lecteur pour que, je l'espère, il puisse ensuite s'impliquer d'autant plus facilement dans le reste de l'histoire en elle-même.
C'est pas tant donc le goût de la description, ou hein, vous n'êtes pas dans la phrase proustienne, mais c'est beaucoup plus le goût de montrer, d'avoir des images.
Exactement, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'aime en tant que lectrice, j'aime pouvoir m'imaginer. J'aime pouvoir oublier ce qui m'entoure au profit de ce que je lis, avoir vraiment des images très fortes en tête, et c'est ce que j'essaye de faire avec mon propre roman.
Marga Gallman, vous n'êtes pas dans la même logique d'écriture. Vous êtes beaucoup plus dans une logique d'écriture d'action, quelque part, d'enchaînement.
J'étais en train de réfléchir justement en écoutant ce qu'elle disait. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien... je me suis retrouvée dans beaucoup de trucs que tu as dit. Mais du coup, j'étais un petit peu perdue. Je réfléchissais à ce que moi, je faisais, en fait. Quelque chose qu'on ne fait pas forcément quand on écrit. On ne va pas toujours réfléchir à comment je vais faire cette scène, comment je vais la montrer. Ça vient juste... Voilà. Et c'est vrai que... Mes scènes sont plus découpées comme des scènes de cinéma, c'est des séries, c'est du découpage. Quelqu'un qui m'avait dit d'ailleurs, ton livre, on dirait un film, il est découpé de telle manière, il y a les scènes, elles vont... Ouais, donc non, je sais pas, en fait, je pense qu'on est... ouais. Non, je réfléchis pas, je vais me poser des questions aussi, mais c'est vrai que ça dépendra... Cette scène était beaucoup d'action. Mais il y en a d'autres qui sont plus décrites, bon, qui viennent après, parce que mon personnage dans le tome 1 n'a à peu près rien à faire du monde qui l'entoure.
elle évolue en fait. Mais c'est vrai que quand je réfléchissais avec ce que tu as dit à une scène du tome 3 où l'ambiance est, elle entoure en fait l'action, tandis que là c'est l'action qui perce le récit.
Je me posais la question en voyant la discussion qui débute un peu à partir de mes questions entre vous. Est-ce que justement, c'est pas, bon, faut éviter les schémas, mais est-ce que c'est pas une différence entre la fantaisie épique, la fantaisie, je dirais, plus classique qu'on connaît, de construire un univers, de construire un décor, de construire un monde nouveau, puisque c'est un monde très différent d'une autre, alors que la fantaisie urbaine, en particulier la Bitlib, elle fonctionne justement sur, certes, des loups-garous, des vampires qui existent et qui agissent dans ce monde, mais un monde qui finalement est le nôtre, donc il y a beaucoup moins besoin de description. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma remarque sur vos deux façons de faire, qui sont peut-être simplement le reflet de deux types de fantaisie ?
Moi, je suis assez d'accord sur le fait que je pense que dans l'urban fantasy, qui fait appel, comme vous dites, à un décor qu'on connaît, il est beaucoup moins nécessaire d'expliquer les choses parce que c'est déjà établi dans la tête des lecteurs. Alors que quand on fait un roman de fantasy comme ça, où c'est vraiment un monde élaboré de toutes pièces, forcément, pour qu'on installe de nouveaux codes, on installe même une nouvelle culture, on installe même parfois des particularités climatiques, architecturales, beaucoup de choses. Alors, ça s'ancre dans un monde cohérent, connu, mais avec des codes différents. Et on est obligé, pour les rendre crédibles, de les décrire beaucoup plus de manière exhaustive que si on faisait appel à notre monde contemporain à nous. Oui, je pense que c'est vrai.
Et c'est peut-être pour ça que, par contre, du coup, vos livres, Marika, j'ai lu les deux premiers, le troisième est juste sorti, alors je le découvrirai après le festival.
Oui, je vais le voir aussi maintenant.
Ben voilà, on le découvre toujours, on arrive dans nos propres livres, nos propres anthos, nos propres romans sont là. C'est toujours très drôle. Mais quand on reprend, en tout cas, les deux premiers volumes, il y a un rythme extrêmement rapide, un rythme d'action, et il y a finalement peu de descriptions parce que c'est un monde qu'on connaît.
Oui, oui. Bah, il faudrait voir ce que ça donne si j'écris de la fantaisie tout court. Je reviendrai dans quelques années répondre à la question. Mais je sais pas, peut-être que ça donnerait aussi un truc péchu parce que finalement, c'est aussi comme ça que j'écris et que je pense. Mais je pense que le fait que ce soit un monde... C'est vrai que je prends plus de temps à décrire une scène qui n'est pas qui sort de l'ordinaire, avec un élément, soit un élément magique ou soit un élément de décor qui n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours.
Les prérequis sont là pour le reste, ouais. Voilà. Arthur Ténor, on va avec Les Fabuleux, votre dernier roman, hein, si je ne me trompe pas. On va partir dans un univers tout à fait différent. Alors, tout d'abord, parce qu'il s'agit donc d'un roman pour les jeunes lecteurs, même si, bien évidemment, comme toujours, on ne le dit pas, on le fait en cachette, mais on lit des romans destinés au départ aux collégiens, aux lycéens, et souvent, on y prend beaucoup de plaisir. Mais la cible, entre guillemets, les lecteurs visés pour qui on écrit, c'est quand même des jeunes lecteurs. Alors là aussi, on va peut-être, avant de poser une première question, démarrer par... on voit déjà sur la couverture hein, une sorte de dragon qu'on devine, des personnages. On voit déjà qu'on n'est pas dans notre monde. Et puis, pour ceux qui seraient distraits, qui n'auraient pas compris que la couverture nous donnait déjà un sacré indice, à l'origine des voyages extraordinaires, c'est un rappel à Jules Verne, ça, volontaire ?
Pas du tout. C'est que j'ai publié chez Plon une série qui s'appelait Les Voyages extraordinaires entre 2004 et 2010. Et en fait, c'est une préquelle. Donc là, on est 60 ans avant. Donc le premier tome qui s'appelait Les Voyages extraordinaires au royaume des sept tours. Donc je raconte dans Les Fabuleux voilà, la découverte de ces mondes.
Quand même le thème, c'était pas de référence la première série à Jules Verne, à au moins un écho quelque part de lecteur jeunesse, non ? Peut-être que c'est un hasard, hein, ça peut arriver aussi en littérature.
C'est vrai, à partir du moment où on entre dans l'imaginaire, on commence à un voyage extraordinaire. Donc puisque le concept même de la série, dont Les Fabuleux est donc à l'origine, c'est l'idée selon laquelle on pourrait, grâce à la physique quantique, partir explorer l'imaginaire humain. Donc on part forcément pour un voyage extraordinaire, parce que l'imaginaire humain est tellement diversifié, tellement fabuleux, c'est le cas de le dire, qu'on rentre dans l'extraordinaire. Donc voilà.
Allez, on va décrire un personnage, un gentil professeur. Un professeur, bon, comme on l'en imagine plein. Et voilà, je vous laisse découvrir. Le professeur esquissa un sourire, puis se leva pour aller se planter devant le disque de ténèbres, pressentant qu'il n'avait pas fini de lui jouer des tours. Malgré l'absence de preuves, il restait convaincu de ne pas avoir été victime d'une hallucination. L'explication était ailleurs, et il se jura qu'il finirait par la trouver. En tout cas, pour lui désormais, ce disque noir n'était plus une ouverture sur le néant, mais ni même sur le vide. C'était autre chose, une porte sur un ailleurs sans doute aussi riche et vivant que la Terre. Plutôt qu'une porte, il pensa qu'il devait s'agir d'une brèche, puisqu'elle était le résultat d'un accident. Ce qu'il commençait à entrevoir était si excitant que même un maître zen en aurait perdu sa placidité. Une bouffée d'euphorie le saisit, il eut envie de proposer à Serena de déboucher la meilleure bouteille de champagne de sa cave. À cet instant précis, il fit jaillir du trou une épée médiévale à lame anthracite, qui frôla à l'horizontale sa hanche gauche. Serrant la poignée à garde droite et dorée, une main bleue surgit à son tour du trou quantique, suivi d'un bras qui s'immobilisa juste avant qu'apparaisse le coude. Puis soudain, l'ensemble s'abattit sur le plancher, sectionné net comme par une guillotine invisible. Un sang rubis commença à s'épancher du membre amputé. Pour les jeunes. Pétrifié de stupeur, le professeur ne pouvait détacher son regard de cette main humaine, gantée de cuir azur, aux doigts crispés, comme si elle serrait encore la poignée d'or mat de l'épée. L'arme lui avait échappé dans la chute et gisait à quelques centimètres. De sa vie, le chercheur n'avait admiré une lame d'acier noir aussi magnifiquement ciselée d'arabesques décoratives, à moins que ce ne fussent des lettres. Alors, voilà, le bras est coupé tranquillement et le professeur parle de lettres, d'esthétique, etc. C'est des sadiques, vos personnages, Arthur Tenner ?
Non, mais c'est un scientifique. Donc, il a à la fois l'émotion humaine naturelle, mais en même temps, il a le regard observateur, donc il a le réflexe observateur. C'est l'ambivalence ou c'est le double regard du scientifique qui est en même temps un être humain.
Quand on écrit une scène comme ça, est-ce qu'il a aussi un peu d'humour dans la façon dont on a un décalage entre quand même la scène qui pourrait être un peu brutale quand même de ce membre coupé et puis la façon dont le professeur guillerait. Est-ce qu'il y a... Non ?
Oui. Bah, ça, c'est peut-être une caractéristique de l'auteur, parce que bon, si on prend toute la série, un des éléments qui la caractérise, c'est le fait qu'on peut vivre des événements extrêmement brutaux, mais avec un peu de fantaisie, fantaisie au sens de un peu d'humour et de légèreté, en fait. Donc, par exemple, j'ai coutume de dire, bon, j'écris aussi des romans historiques. J'ai écrit un roman de guerre où il y a un seul mort. Il s'appelait Soldat Inconnu, donc c'est le gars qui est enterré sous l'Arc de Triomphe. Et ça prend à la gorge. Alors que j'écris des livres comme Les Fabuleux, où il y a des scènes de bataille épouvantables, où on étripe à tout va, et ça fait rigoler. Et on voit bien la différence qu'il y a entre le fait d'entrer dans un univers qu'on sait imaginaire et de restituer la réalité.
D'accord. L'imaginaire et la réalité. Alors, on va être dans ces deux domaines. On va d'abord commencer par le réel, puisque le roman Basera de Christophe Lod est un roman qui, en tout cas, au départ, se présente comme un roman historique. On va prendre là aussi un petit extrait pour plonger dans le texte. On est à la fin de ces croisades et Basera, c'est aussi un petit clin d'œil, c'est un chevalier lorrain. Voilà, et il va partir vers un long périple et on va vite commencer à comprendre pourquoi. La chambre de Mora était une haute pièce dont les fenêtres donnaient sur le ruban bleu du Tibre. Des armoires ouvertes contenaient des douzaines de livres. Il y en avait plus encore que dans la maison de Blaise. Deux coffres posés entre les fenêtres renfermait des écrits et moult documents reposés sur une grande table. Le reste du lieu était aussi sobre que la maison. Un objet cependant contrastait avec la simplicité du lieu, seul signe de richesse du cardinal, une croix en or accrochée au mur. Sur la table, dans les armoires et les coffres, régnait un désordre effarant. Le prélat semblait appartenir à ce genre d'hommes dont l'apparence soignée ne reflétait pas celle de leur intérieur. Le jour déclinait. Des bougies éclairaient la chambre. Mora invita Raoul à prendre place dans l'un des hauts fauteuils, disparut dans la pièce voisine, puis revint un rouleau à la main. « Que savez-vous d'Athanase d'Alexandrie ? » demanda-t-il en s'asseyant. « C'est la première fois que j'entends ce nom, » répondit Raoul. L'esquisse d'un sourire éclaira le visage du cardinal. « Je n'en crois rien. surtout si vous avez eu un précepteur digne de ce nom. Je crains de m'être plus intéressé au tir à l'arc qu'au livre, éminence. Athanase devint évêque d'Alexandrie après la grande persécution des chrétiens. C'est à lui que nous devons la vie d'Antony, l'histoire de la vie de Saint-Antoine. Raoul se taisait, espérant que son hôte en vienne enfin à lui exposer ce qu'il attendait de lui. Voici la deuxième partie de la Vita. Pendant près de 1000 ans, on l'a cru perdue, jusqu'à ce que l'original, il y a quelques mois, parvienne aux mains de l'Église. Le Saint-Père désire que cette copie soit portée à Jérusalem pour être remise à un ami du Saint-Siège. L'un de mes hommes en a été chargé. Il parle parfaitement l'arabe et connaît la Terre Sainte, mais ce n'est qu'un scribe. Je doute qu'il soit capable d'affronter les dangers que représente ce voyage. « Vous voulez que je l'accompagne ?» dit Raoul d'une voix hésitante. Le prélat acquiesça. « Dieu vous a envoyé à Rome à dessein. Basera, j'en suis convaincu. J'ai prié pour qu'on m'envoie un chevalier tel que vous. » Et voilà comment Basera va se retrouver investi d'une mission. Sachez, pour la bonne compréhension du roman, sans rien révéler, puisque c'est tout le début du livre, que Basera est atteint d'une grave maladie qu'on pense incurable, et il va partir, parce qu'il a beaucoup de péchés à se faire reprocher, en Terre Sainte, en tout cas dans un long voyage au départ, et peut-être que là on lui offre une sorte de rachat possible. N'oublions pas que nous vivons en des temps très religieux, et particulièrement dans le monde chrétien. Alors, Christophe Lode, vous êtes auteur de 7 romans déjà publiés en Allemagne. C'est votre premier roman publié en France, mais je pense que ce ne sera pas le dernier. Et la preuve pour ce premier unique roman, vous nous avez donné envie de vous inviter aux Imaginales, c'est donc que ce roman nous a beaucoup plu. Et ce livre nous plonge dans un univers qui, au départ, est le roman historique des croisades. Pourquoi vous avez choisi d'abord un chevalier lorrain? C'est quand même un peu curieux pour un auteur allemand, même si l'histoire nous rappelle qu'entre le duché de Lorraine et l'Allemagne, quand même, le Saint-Empire germanique, il y a plus que des liens. Et puis, pourquoi donc un chevalier lorrain? Et deuxième question, pourquoi avez-vous choisi l'époque des croisades, Christophe Lode? Oui, pourquoi chevalier lorrain d'abord? On va peut-être faire une par une.
Ja, zunächst mal freut es mich sehr, dass Ihnen der Roman so gut gefällt und dass ich eingeladen wurde. Ja, warum kommt er aus Frankreich? Dazu muss ich sagen, ich finde, ich brauche zum Schreiben einfach immer was mich inspiriert. Und mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, über Deutschland zu schreiben, weil Deutschland ist sehr aufgeräumt, sehr ordentlich und dadurch auch ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Roman in Frankreich anfangen zu lassen, einfach weil ich Frankreich als Land sehr mag, weil ich die französische Geschichte sehr mag und weil da für mich auch so ein kleiner Schuss Exotik ins Spiel kommt, die mich inspiriert und die ich einfach brauche für meine Geschichten. Und die Epoche der Kreuzzüge fand ich deswegen so spannend, weil zunächst mal ist es eine Epoche, die mich schon seit meiner Kindheit sehr interessiert. Finde ich einfach eine sehr spannende Epoche, was da geschehen ist zwischen Christentum und Islam, die Spannungen, die es da gab. Finde ich sehr spannend. Und wenn man eine Romanfigur in einem Roman nach Israel schickt, also ins Heilige Land schickt, dann ist die Geschichte einfach sehr viel spannender, wenn ein Christ in ein feindliches Land aufbrechen muss. Ne? Also die Kreuzzüge waren gerade vorbei. Den Sarazenen ist es gelungen, die Christen, die Kreuzritter zu vertreiben. Und jetzt muss er als Christ in dieses Land aufbrechen. Es ist gefährlich für ihn. Er ist dort ein Feind. Er muss aufpassen, was er tut. Er muss aufpassen, was er sagt. Er muss vorsichtig sein. Und es ergibt einfach eine spannendere Geschichte.
Oui, d'abord, je suis très content, bien sûr, que le roman vous ait plu. Et je vous remercie aussi. Je me réjouis d'avoir été invité aux Imaginales. Alors, pour la première question, pourquoi la France ? Eh bien, parce que j'ai besoin d'être inspirée pour ce que j'écris. Et bon, l'Allemagne, c'est quand même... Tout en Allemagne est quand même un peu rangé, un peu dans des casiers. L'Allemagne a quelque chose quand même d'un peu ennuyeux. Et moi, je trouve que j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire de la France. Et j'avais besoin d'un petit peu d'exotisme pour mon roman. Alors, pourquoi avoir choisi la période des croisades et pourquoi l'avoir choisi surtout après les croisades ? Parce que, depuis mon enfance, j'ai toujours été intéressée par cette période-là, ce qui fait que j'ai préféré prendre cela, bien sûr. Et puis, pourquoi après les croisades ? Eh bien, parce que les croisades étaient terminées, et j'avais envoyé donc un personnage qui est chrétien dans un pays un pays d'islam, et donc c'est quelque chose qui sera particulièrement dangereux et particulièrement passionnant à suivre.
Quand on écrit un roman historique, je précise, hein, on l'a dit dès le début, on y revient, attention, pour les amateurs de fantasy, vous ne vous laissez pas avoir, ça démarre comme un roman historique, c'est un roman historique, mais il y a autre chose, mais je ne peux pas vous le dire, parce que sinon, évidemment, je casserai tout le suspense, je casserai les révélations finales, et je casserai aussi le plaisir rétrospectif qui nous redonne une deuxième lecture de ce roman. Il faut savoir que Christophe Loge, je tiens à le préciser, il écrit à la fois des romans historiques et à la fois des romans de fantasy. Donc, évidemment, là, il a un peu joué dans ce roman, il a mixé en quelque sorte ces deux passions. Quand on choisit un personnage qui va partir jusqu'en Terre Sainte, et là aussi, on ne va pas en dire plus parce qu'il va peut-être aller ailleurs, lorsqu'on est à la recherche d'un objet, lorsqu'on est à la recherche de soi, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une quête initiatique qui, quelque part, est quand même une des grandes traditions du roman de fantasy ?
Ja, absolut. Also was Raoul im Heiligen Land erlebt, das ist eine wirklich klassische Queste. Ja? Also die Quest in der englischsprachigen Literatur. Also er muss sich auf eine Reise begeben und er sucht einen bestimmten Gegenstand. Aber das, was er letztlich auf dieser Reise findet, also er findet diesen Gegenstand oder vielleicht auch nicht, will die Spannung nicht rausnehmen, aber das, was er eigentlich auf dieser Reise findet, ist etwas ganz anderes und das ist etwas, was mit seiner Persönlichkeit zu tun hat und es ist das Merkmal einer Queste ist auch immer, dass der Hauptcharakter, der eben sich auf diese Queste begibt, dass er an seinen Aufgaben wächst. Er beginnt die Queste als Mensch, der Fehler hat, als Mensch, der viel zu lernen hat und während der Queste schafft er es eben, seine Fehler zu überwinden. Und das ist ein ganz klassisches Motiv, nicht nur im historischen Roman, auch in der Fantasy oder auch generell einfach in der erzählenden Literatur, das ich sehr spannend finde und das ich da aufgegriffen habe.
Oui, effectivement, Raoul fait une quête, il a un objet à chercher, là, il va y avoir bien sûr du suspense pour se demander s'il va le trouver ou s'il ne va pas le trouver, mais en fait, ce qu'il trouve au cours de son voyage, c'est tout à fait autre chose. Ce qu'il trouve, c'est sa personnalité qui va changer, c'est quelque chose qu'il va découvrir sur lui-même, et il va grandir, la mission qu'il accomplit va le faire grandir et au cours de sa quête il va réussir à surmonter toutes ses fautes et se trouver donc un peu purifié à la fin.
Est-ce que quelque part Arthur Tanner, dans un genre très différent mais un roman de fantasy pour jeunes, est-ce que c'est pas aussi quelque part une quête initiatique?
Alors ça peut être très explicite. Voilà, le héros, il a un but. C'est un objet, c'est la réponse à une question, etc. Mais c'est vrai que c'est profondément philosophique. Enfin, je veux dire, c'est presque même tous les romans d'aventure ont un côté comme ça, initiatique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a un but à poursuivre. Donc tout au long du récit, on va poursuivre ce but. Et on se rend compte, si on analyse, que ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas l'atteinte du but, c'est le chemin qu'on a pris et tous les obstacles qu'on a rencontrés qui nous amènent à mûrir. Alors, en tant qu'auteur, ce qui est très drôle, c'est que quand on crée un personnage, alors je vais pas parler surtout du, enfin, pas de, des fabuleux, mais de celui qui a ouvert la série, qui est Le Voyage extraordinaire au royaume des sept tours, parce que quand j'ai écrit le roman, j'ai créé un personnage, un héros principal, et en fait, au fur et à mesure où j'écrivais le récit, il grandissait. C'est-à-dire que le chemin qu'il parcourait, les épreuves qu'il rencontrait, me faisaient mûrir moi. C'est-à-dire que c'est comme si moi-même, l'auteur, je grandissais et je faisais grandir mon personnage, comme si j'apprenais des choses en même temps que mon personnage. Donc, en fait, tout le chemin, tout le roman est un chemin initiatique, et à la limite, le but, bon, bah oui, il trouve, il finit par trouver. Autrement, ce serait un peu désespérant. Et puis, une fois qu'il a trouvé, bah, il n'a plus qu'à recommencer, ce sera le tome 2.
Astucieux, comme il propose. Donc, commencer de rentrer dans l'histoire et ensuite, combien de tomes vous avez prévu pour cette série, Arthur Tanor?
Bah, là, j'en avais écrit 4 donc, précédemment. Là, ça fait le 5e. Et dans ma tête, j'en ai 2. Donc, il faut que je m'y mette.
D'accord. Parler de donc dans ce café littéraire de la passion du roman que vous exprimez chacun à votre façon. Pour revenir à la question de ce café, la passion du roman, Magali Villeneuve, quand on est illustratrice, quand on s'exprime par, alors peu importe que ce soit l'aérographe, les fusains, les crayons ou l'ordinateur, mais quand on a un rapport avec un art visuel, et qu'est-ce qui fait qu'on a aussi cette passion du roman ?
La passion du roman vient du fait que justement ma passion de l'illustration vient de la littérature. Parce que mon métier consiste quand même en majeure partie à illustrer des œuvres littéraires comme Le Trône de Fer ou Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Et je crois que comme ma vocation de dessinatrice est venue relativement sur le tard, en revanche, il y a une chose qui me suit depuis toujours, c'est le plaisir de lire. Et je crois que c'est à force de frustration en lisant des livres qui me plaisaient, j'avais vraiment envie de voir les personnages tels que je les imaginais pendant la lecture. Et je crois que c'est plutôt du livre que découle l'illustration. Et le fait d'écrire était presque un prolongement naturel à cette passion de base qu'était la littérature.
Marika Gellman, cette passion d'écrire, cette passion de publier des romans, vous, elle s'exprime donc dans cette urban fantasy, cette bitlite, comme on dit en France, toujours qu'on trouve des noms un peu particuliers, mais pourquoi, justement, vous avez choisi de l'exprimer par ce type de littérature quand même très particulière et assez récente ?
J'en avais jamais lu avant. J'ai pas choisi. En fait, j'ai lu... Bon, y a des gens qui ont déjà entendu l'histoire plein de fois, mais j'ai lu Twilight, j'ai pas aimé, et j'avais lu Entretien avec un vampire avant, c'était mes seuls vampires. Et j'ai pas du tout aimé le personnage de Bella, et je me suis dit, si j'ai fait le personnage contraire, qui a que des défauts, en fait, du coup, au début, qui est imbuvable, qui est pas fréquentable. Et je l'ai juste mise en contact avec des vampires aussi, pour regarder comment ça se faisait, et comme source d'inspiration, comme background, j'avais Buffy, et ça a donné ça. Et on m'a dit, oh, c'est un genre qui existe, c'est de la bitlite. J'ai fait, cool, c'est quoi de la bitlite? Et j'ai pas choisi, je me suis juste créé un monstre et je l'ai mise en face de vampire.
Pourquoi cette fille qui tape, qui est insupportable, mais parfois elle le fait à juste titre aussi, parce que vu les personnages qu'elle rencontre, un nombre de machos quand même sont pas tristes, et finalement on est assez ravis de les pouvoir prendre une sacrée dérouillée, et c'est vrai que ça associe plaisir parfois. Est-ce que c'est le fait d'être un auteur féminin, est-ce que ça vous a donné envie de choisir une personnage de fille qui justement, à la fois elle soit odieuse, mais aussi elle soit capable d'énergie quand même quelque part, elle soit pas l'héroïne nunuche qu'on peut parfois se traîner dans les romans?
Ce que j'avais envie avec elle, c'est que vu que j'ai fait un doppelganger, quoi. J'adore dire j'ai créé un monstre, c'est vrai. Mais du coup, vu que c'était vraiment ça le package de base, pour elle, ce que j'avais envie, c'était que oui, elle arrive déjà à se défendre toute seule, elle arrive déjà à se confronter au danger. Mais il lui manque toute une autre palette d'émotions humaines. Et ce qui m'intéressait justement, d'émotions humaines, on va dire d'émotions de gens fréquentables et sains et équilibrés. Ce qui m'intéressait avec elle, en fait, c'était que plus plus je la mettais en contact avec du surnaturel, plus elle-même devenait humaine. Et en fait, c'est pour ça que la série est née aussi, et que c'est pas juste resté une idée dans ma tête, c'est que j'ai vu son chemin. Et je voulais en faire d'une dure à cuire qui sait se débrouiller, qui est normalement l'état final qu'on a après un voyage initiatique. En général, on s'est trouvé et on arrive à se défendre. Elle a toujours eu beaucoup de facilité, trop de facilité à se défendre. Et je voulais qu'elle devienne plus fragile, plus humaine.
Christophe Lod, quand votre personnage, on le découvre dans ce duché de Lorraine, avant qu'il s'en aille pour Rome et puis la Terre Sainte, votre personnage, en fait, allez, je vais vous le dire, il n'est pas très sympathique. Son comportement avec les femmes, son rapport à la violence, enfin, c'est quand même pas un personnage très attachant au début du roman. Et ce sont les épreuves, et c'est son objectif, et les gens qu'il va rencontrer, qu'il va affronter, qui vont l'amener à changer. Et au fur et à mesure du roman, on a l'impression qu'il s'humanise quelque part, que c'est un personnage qu'on trouvait pas sympathique au début, et progressivement commence à avoir de l'empathie pour lui. Est-ce que ça, c'était délibéré, ou est-ce que c'est venu au cours de l'écriture ?
Also ich glaube tatsächlich, dass Raoul am Anfang wirklich ziemlich unsympathisch ist und dass vor allem Frauen ihn nicht mögen, kann ich absolut verstehen. Aber ich glaube auch, dass er schon von Anfang an irgendetwas an sich hat, dass man einfach über ihn lesen will, dass man herausfinden will, was ist er für ein Mensch. Und ich glaube auch, man merkt schon recht früh, dass er wirklich auch das Potenzial in sich hat, sich zu bessern. Und man hofft natürlich auch, dass er sich bessert. Und deswegen geht man, denke ich, bereitwillig mit ihm auf diese Reise und findet dann tatsächlich auch heraus, dass er sich bessert, also dass er in der Lage ist, zu erkennen, was er falsch macht und dass er ja wirklich daran auch wächst. Und ganz entscheidend für ihn ist, dass er irgendwann eine Frau trifft, die ihm ebenbürtig ist und die ihm auch seine Fehler spiegelt und ihm auch die Möglichkeit gibt, sie zu überwinden.
Oui, c'est vrai qu'au départ, Raoul n'est pas vraiment un type très très sympathique. En tout cas, je peux comprendre qu'en tant que femme, on ne puisse pas très bien le comprendre, qu'on ne le trouve pas particulièrement sympathique en tant que femme. Mais au début, je trouve tout de même qu'on remarque très tôt que c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui a du potentiel pour s'améliorer. On espère d'ailleurs qu'il va s'améliorer et que on voit qu'il est en mesure de connaître ce qu'il fait de faux et qu'il va réussir à se montrer un meilleur côté et puis il va rencontrer au cours de son voyage une femme qui va réussir aussi à l'améliorer.
Puisqu'on approche pas tout de suite, mais bientôt de la fin de notre café littéraire, je vais quand même essayer de vous poser une question sur cette passion du roman, comment elle s'exprime chez vous, et qu'est-ce que vous avez voulu faire en écrivant ce roman-là, le premier volume ou ce personnage-là. Comment vous faites passer cette passion que vous ressentez pour la littérature, vous l'avez tous expliqué, et pour l'envie de raconter des histoires. Comment vous le faites passer au public? En un mot, si vous aviez à dire, voilà ce qui me passionne dans le roman, voilà ce que j'ai essayé de faire, et voilà pourquoi j'espère que mon roman va vous plaire, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour défendre, entre guillemets, pour peu qu'ils aient besoin d'être défendus, et sans doute pas, puisque vous êtes les invités du festival? Marika Galvan?
Pourquoi toujours moi? Ça me fait penser, en fait, quand j'avais envoyé mon roman au Petit Caveau, qui l'a publié au tout premier, j'avais présenté un peu le roman en quelques lignes et la trame générale et tout. Et j'avais conclu en disant que j'aimerais vraiment bien être publiée. C'était mon tout premier essai, en fait, d'envoi et tout. Que j'aimerais vraiment bien être publiée parce que ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait que les gens prennent autant de plaisir à lire mon roman que j'avais eu à en écrire. Et c'est difficile de quantifier, en fait, de mettre des mots sur la quantité de plaisir qu'on peut avoir, sur la sorte de plaisir qu'on peut avoir en écrivant. Mais c'est vrai que c'est libérant. Et là, avec ce personnage, avec mon roman, c'était... je sais pas, c'est peut-être une femme libérée qui en a rien à faire de ce qu'on peut penser d'elle. Et c'est quelque chose d'assez libérant, en fait, de se dire que quand on écrit, on peut le faire. On peut être comme ça, alors qu'on n'oserait jamais. Il y a beaucoup de lecteurs qui viennent et qui me disent « J'aimerais bien être comme Maëve. » Et moi, je me dis « Mais mon coco, tu fais ça 5 minutes et tout le monde te tombe dessus. C'est juste impossible. » Et c'est vrai qu'à l'écrire, je prends énormément de plaisir parce que c'est ce petit démon qu'on a sur l'épaule, des choses qu'on aimerait faire et qu'on ne fait pas.
Et vous, Magali, avec La Dernière Terre et ce premier volume, L'Enfant au Méridien, en sachant que le second est paru, avec cette fantaisie épique, qu'est-ce que vous voulez faire découvrir au lecteur ?
Alors, en toute modestie, évidemment, c'est en fait la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire cette saga. C'était la volonté de condenser dans un livre ce qui avait tendance à me manquer dans d'autres. Et je crois que si je devais trouver une chose qui caractérise La Dernière Terre, c'est que même si c'est de la fantaisie, même s'il y a au fil des tomes qui se développe un fond fantastique qui devient de plus en plus présent, je voulais essayer de montrer que la fantaisie pouvait être avant tout, avant les péripéties, avant les créatures, avant tout ça, également une histoire humaine, avec des êtres humains tout à fait normaux, parce que dans La Dernière Terre, il n'y a pas d'êtres humains dotés de pouvoirs quelconques, de facultés particulières. Ce sont vraiment des humains comme vous et moi, avec des préoccupations tout à fait similaires, et qui vont se retrouver confrontés, comme on pourrait l'être, à quelque chose de totalement anormal qui va les dépasser. Et c'était vraiment ce processus d'identification que je voulais transmettre parce que moi-même, j'ai mis dans ce roman mes propres peurs, mes propres inquiétudes, mes propres questions en me demandant si un jour je me retrouvais face à quelque chose qui me dépasse, comment est-ce que je réagirais ? Et je crois que la fantaisie m'a permis d'exprimer cela avec ce surplus de... ce côté épique et aussi cette grandeur de sentiment qu'il est plus facile d'exprimer en fantaisie sans qu'elle ait l'air un peu trop exagérée, alors qu'en littérature blanche ça aurait peut-être été un petit peu trop lyrique et j'aurais certainement pas été à l'aise là-dedans. Donc c'était ce que j'ai cherché à faire.
Et vous, Arthur Tenor ?
Alors, la passion du roman, pour moi, c'est la passion du réel imaginaire. En fait, l'imaginaire, c'est une forme de réel, c'est une forme de réalité. Quand on est à l'intérieur du rêve, quand on est à l'intérieur du roman, on oublie ce qui est autour pour pénétrer dans une réalité. Alors, le réel est intéressant, il y a plein d'aventures, super, mais il est limité. C'est-à-dire que si je veux m'envoler, si je veux traverser un mur, si je veux rencontrer un elfe ou une créature fabuleuse, je ne vais pas pouvoir le rencontrer ici. Donc le réel est nécessairement limité. Et alors moi, la passion de l'imaginaire, enfin le roman, c'est comme dans Les Fabuleux, c'est entrer dans une réalité, s'immerger totalement dans une réalité qui est complètement, où tout est possible, donc forcément extrêmement enthousiasmante. Donc voilà.
Le dernier mot, ça sera à Christophe Lod. La passion du roman, c'est plutôt chez vous le roman historique, le roman de fantaisie, ou quelque part cet étrange et superbe objet qui est ce roman qui part d'un roman historique pour déboucher sur un monde fantastique sinon de fantaisie.
Schwer zu beantworten. Ich möchte beides machen. Ich finde beides ganz faszinierende Genres und beide haben oder eröffnen dem Leser einen ganz speziellen Sense of Wonder. Er kann in beiden Genres Welten entdecken, die es in der Wirklichkeit nicht gibt oder die es im historischen Roman eben nicht mehr gibt und ganz, ganz grundsätzlich, was für mich die Faszination von Romanen ausmacht, ist einfach die Möglichkeit, dass man als Leser Figuren kennenlernt, also vielleicht sogar besser kennenlernt als reale Menschen, weil man im Roman die Möglichkeit hat, in sie hineinzuschlüpfen, ihr Innenleben kennenzulernen, ihre Gedanken kennenzulernen. Und für mich als Leser ist es eben sehr faszinierend, mit diesen Figuren mitzuleiden, mitzufiebern, ihr Schicksal zu erfahren. Und das ist eben auch das, was ich als Schriftsteller erreichen will, eben Figuren zu erschaffen, mit denen der Leser mitfiebern kann und mitleiden kann. Und da ist das Genre eigentlich ganz egal. Also das funktioniert sowohl im historischen Roman als auch im Fantasy-Roman.
Oui, c'est une question qui c'est pas forcément facile de donner une réponse. En fait, ce sont des gens, bien sûr, tout à fait différents, mais qui agissent sur le lecteur de façon tout à fait spéciale. Dans le roman historique, on a des personnages qui n'existent plus. Dans le roman de fantasy, on a des personnages qui n'existent pas. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est que dans les romans, en tant que lecteur, on apprend à connaître des personnages, la façon dont ils fonctionnent, beaucoup mieux que dans la vie, que dans la vie normale. On vit les choses avec eux, on brûle avec eux, on souffre avec eux, et finalement, aussi bien dans un genre que dans l'autre, ça peut fonctionner.
Eh bien, merci à tous les quatre, donc Arthur Ténor, Les Fabuleux aux éditions Scrinéo, Fantasy Jeunesse. La Dernière Terre, le cycle de Magali Villeneuve, c'est aux éditions, j'ai un petit doute. L'Homme sans nom, je cherchais. Voilà. Ensuite, chez Milady, Marika Galman, Maeve Regan, c'est la série avec Rage de Dents, autant commencer tout de suite fort, pour l'extraction. Et puis Christophe Lod, Bazera, le sceptre de Salomon, aux éditions Anne d'Harcourt, notre révélation allemande. Merci à tous. Avant que ça ne ferme complètement, si vous avez envie de vous procurer l'un des livres de nos intervenants, vous avez quelques minutes avant que ça ne ferme pour les retrouver sous la bulle du livre. Merci.